France Culture. France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans les midis pour une dernière fois cette saison en public du Festival d'Avignon. Avec nous dans un instant dans la cour du cloître Saint-Louis, Milo Rao qui a imaginé la petite forme itinérante de cette 79e édition, la lettre, et a conçu une soirée de lecture autour du procès des viols de Mazan, hommage à Gisèle Pellicot, ici dans une semaine et à suivre à distance en vidéo. Puis, après le journal, une autre forme de rencontre entre le droit et le dispositif théâtral avec Émilie Rousset qui poursuit son travail de rapport sensible à la matière documentaire dans sa nouvelle création « Affaires familiales ».
Cher public, on va jouer avec vous ce soir. La mouette de Tchekhov.
Ouais. Et l'histoire de la pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc.
Ouais. C'est deux histoires qui ne sont pas vraiment liées, sauf par nos biographies.
Et c'est important pour vous, la biographie des personnes sur scène. Bonjour, Milo Rao.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Nous venons d'entendre un extrait de la lettre que vous présentez donc jusqu'à la fin du festival chaque soir dans un lieu différent. C'est le dispositif pièce commune dont nous reparlerons un peu plus tard. Sur scène, il y a donc Arne de Trémery et Olga Mouak. Compte tenu de ce que nous venons d'entendre, comment s'est-elle écrite, cette lettre?
La lettre, c'est la lettre qui est... Tu veux dire la pièce ou la lettre?
La pièce.
Parce qu'il y a une lettre dans une pièce qui s'appelle...
Il y a une lettre dans la lettre.
La lettre. Et la lettre de base, ça a commencé comme ça. C'est vraiment la grand-mère d'Arne qui a écrit... L'arrière-grand-mère qui a écrit une lettre à sa famille disant qu'elle part et qu'elle ne reviendra pas. Et je connais cette histoire quand j'étais en tournée avec Antigone en Amazonie aux États-Unis. À New York, il y avait Arne, sans père, sans grand-père. Et je me suis demandé, mais pourquoi vous êtes ici avec toute la famille? On dit, on fait la cérémonie de la disparition de la grand-mère. De la mère ou de l'arrière-grand-mère. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et je dis, Arne, il faut peut-être faire une pièce. Il y a là une petite forme, comme a proposé Avignon. Peut-être on peut faire ça. Puis j'ai demandé à Olga de nous rejoindre, et comme toujours chez moi, il y a des rencontres, et après on parle des obsessions, des biographies, et puis je commence à écrire parallèlement, on continue à se voir, à un certain moment on va sur scène, et finalement les deux dernières semaines dans un petit village charmant qui s'appelle Barbantane. On a fini ça sur une scène qui a plus ou moins la taille de cette scène ici.
Alors, il y a la lettre de la grand-mère, et puis il y a effectivement dans ces éléments biographiques de vos deux comédiens, comédiennes et comédiens qui alimentent cette pièce, la lettre. Évidemment, quand vous dites que vous travaillez toujours avec l'histoire des personnes qui sont sur scène, c'est pas toute l'histoire à chaque fois. C'est des éléments de l'histoire qui vont pouvoir se tisser avec d'autres choses. Et donc ici, ce qu'ils apportent aussi, c'est leur rapport pour l'un à la mouette de Tchekhov, pour l'autre à Jeanne d'Arc. Donc ce sont aussi des choses qui viennent d'eux, mais qui vont vous permettre d'aller dire quelque chose sur le théâtre. C'est choisi ce qui vient d'eux quand même.
Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture. Évidemment, la première lecture qui est dans la mouette aussi, c'est le rapport aux parents, c'est le respect des parents, des grands-parents, etc. Alors le respect des générations, mais aussi chaque génération essaie de renouveler le théâtre. Alors il a cette histoire. Après, il y a quelque chose qui est pour moi extrêmement important dans le théâtre, c'est le dialogue avec les morts, avec les fantômes, avec Dieu, avec le tragique de notre vie. Alors la grand-mère, Jeanne d'Arc, Sainte Marguerite, etc. Et dernièrement, il y a l'amour. Alors c'est une pièce sur l'amour impossible, sur l'amour non partagé, alors sur l'amour tragique. Et finalement sur la solidarité avec le public. Alors c'est aussi le questionnement, qu'est-ce que le théâtre populaire qui va dans les villages mais qui a un certain niveau politique et intellectuel, qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
Alors justement, je l'ai dit, ce dispositif pièce commune dans lequel s'inscrit cette pièce, La Lettre, existe donc depuis plusieurs années. Le Festival de Vienne, que vous dirigez depuis 2023, en est coproducteur. Et la feuille de route, c'est une pièce plutôt courte, un décor très réduit pour voyager léger et pour pouvoir jouer dans des lieux qui ne sont habituellement pas destinés au théâtre, deux interprètes maximum, et derrière, en effet, il y a l'idée d'un théâtre populaire. Mais en réalité, Milo Rao, est-ce que les fondements de ce que vous faites, de ce que vous proposez, de votre réflexion sur le théâtre, de pourquoi le théâtre, est-ce que tout ça, c'est réellement modifié par cette feuille de route ?
C'est modifié. En 2018, j'ai écrit un manifeste de Grand, où il y avait 10 points de faire plus léger, plus démocratique, plus accessible le théâtre. Et étrangement, j'ai juste suivi toutes les 10 règles ici
ça,
à Avignon,
oui,
avec,
voilà,
avec
en fait.
La pièce commune. Donc, alors, on m'a beaucoup aidé avec cette limite. Parce que, en fait, oui, c'est intéressant et c'est aussi un peu. On panique au début un tout petit peu quand on s'habitue au black box ou dans des contextes et on travaille avec. Je travaille beaucoup avec les contextes, avec les théâtres. Je fais parfois des pièces pour un théâtre ou pour un contexte politique ou pour un parlement ou quelque chose comme ça. Et ici, je sais que chaque jour, le contexte va changer. Alors, il faut inventer comme un contexte, c'est la situation comme ici. Il y a le public, il y a les acteurs, mais c'est vraiment drôle qu'on a le même contexte ici comme dans la pièce.
C'est le même dispositif, effectivement, que dans la pièce. Alors, ce manifeste de Gand, donc écrit en 2018, à l'époque, vous dirigiez le théâtre de cette ville en Belgique. Le point 4, c'était l'adaptation littérale des classiques sur scène est interdite. Si un texte qui émane d'un livre, d'un film ou d'une pièce de théâtre est utilisé, il ne peut pas dépasser plus de 20% de la durée de la représentation. On n'a pas compté, mais a priori, la mouette dans la lettre, ça n'est pas plus de 20%. Néanmoins, sa présence vous permet beaucoup de choses.
Oui, c'est ça. Il y a toujours, c'est toujours bien d'avoir un mythe présent, Jeanne d'Arc aussi. Tout le monde connaît la mouette, tout le monde. Et s'il la connaît pas, il y a le père, il y a la mère, il y a le fils, il y a un amour qui n'est pas partagé. De l'autre côté, Jeanne d'Arc, mais si tu connais pas l'histoire en détail, je la connaissais pas, tu sais tout à fait qui c'est, ce qui s'est passé, elle a été brûlée, tout ça. Alors c'est toujours bien d'essayer ou de prendre un mythe ou une grande pièce comme miroir. En fait, ce que je fais, il y a 3 à 4 scènes de Tchekhov sur scène, mais ce qu'on fait, on les réécrit complètement. Alors, il y a un grand monologue d'Arkadina qui, je trouve très beau, mais qui est inventé dans les répétitions, parce qu'il y avait un aspect d'elle que je trouvais intéressant par rapport à la grand-mère, parce que c'est fait par la voix, intelligence artificielle, par la voix de sa grand-mère qui parle. Alors, il y avait quelque chose que je voulais dire sur elle, à travers Tchekhov, et c'est un peu comme ça que Tchekhov nous aide, nous, on aide à Tchekhov.
Au moins 2 des acteurs sur scène peuvent ne pas être des acteurs professionnels, ça c'était un autre point du manifeste. Est-ce qu'ici, les acteurs non professionnels sont en réalité le public ?
Oui, c'est le public, et ils sont assez... C'était pour moi intéressant de faire un contexte dans lequel le public est libéré plutôt qu'inclus dans un jeu qu'il comprend pas et se sent subjugué. C'est en fait mon impression beaucoup de fois quand je suis invité à jouer sur scène du public. Ça me donne pas un empowerment, c'est plutôt le contraire. Et là, on a distribué des papiers aux gens qu'ils peuvent lire et il y a des gens qui commencent tout de suite à changer. Alors par exemple, il y avait une ligne qui disait « Imaginez-vous le monde sans les pièces de Molière ». Et la femme qui l'a lu, elle déteste Molière, elle a dit « Imaginez sans Racine ». Et une autre a mis le texte en russe, en live, etc., parce qu'elle était russe. Alors, il y a quand même une grande marche dans cette pièce.
On peut croire ou pas, peut-être, là, ce que vous êtes en train de nous raconter.
Non, c'est vrai, ça s'est passé à Barbantane. Non,
okay, c'est vrai. D'accord. Alors, en tout cas, ce texte qui, effectivement, est pensé pour ce dispositif ici, à Barbantane, à Villeneuve, à plein d'endroits différents, le fait est qu'il va tourner dans des lieux qui sont, pour le coup, des théâtres, qui sont habitués à recevoir du théâtre. Néanmoins, là, dans ce qui est présenté ici, il y a des références aux lieux, il y a des références aux grands lieux du festival versus les autres. Vous connaissez ça par cœur, Milo Rao, vous êtes beaucoup venu au festival d'Avignon. Est-ce que c'est important aussi d'être dans d'autres lieux? Et est-ce que c'est important d'en jouer? Parce que quand c'est dit ça dans la pièce, alors bah oui, mais bon, on n'est pas à la cour d'honneur, on n'est pas à la carrière ou je ne sais pas quoi, mais on est quand même dans le in. Ça fait beaucoup rire le public.
Oui, parce qu'en fait, c'est, je veux dire, l'histoire, comme on la commence, les deux acteurs, ils racontent que leur vie est complètement ratée. Ils ont fait plein d'auditions, ça n'a jamais marché. Ils voulaient jouer dans la cour d'honneur et à l'opéra, etc. Ça ne marche pas à Paris, ils l'ont raté aussi. Et alors, on leur propose la petite forme et ça semble un peu humble, mais quand même, c'est bien. Alors, on prend la chance et on le fait le plus grand possible et le plus universel possible. Et je trouvais drôle de parler de ça et on voit en fait, je me demande comment on va le faire quand on va tourner en France et aussi dans d'autres pays avec la pièce, quelle sera la plaisanterie de là, quel est là le cadre élitaire dans lequel on va se refléter tout ça.
Oui, et en même temps la référence au lieu du Festival d'Avignon, au in, au off, a priori ça marche partout en France, je pense, dans les théâtres. Vous aurez possiblement les mêmes rires. Oui. Cette question du rire quand même, justement, Milo Rao, il y a toute une palette dans cette pièce. Voilà, on réfléchit, on peut être ému, touché, et on rit aussi. Qu'est-ce que ça permet, ça? Pourquoi vous allez aussi nous chercher à cet endroit-là du rire?
J'ai compris que pour le lien avec le public, c'était extrêmement important d'avoir ce lien du théâtre populaire qui est pour moi un peu lié à la figure du Pirque Pirlala, en fait le guignol qui est sur scène. Et les personnages sur scène sont toujours un peu moins intelligents que le public. Et ils savent un peu moins, et ils sont en train de chercher la vérité de leur vie, la vérité de la situation, pendant que de l'extérieur, tu vas bien, et alors tu cherches ensemble avec eux, et ça tisse un lien. C'est un rire ensemble, en fait, qui construit un corps ensemble, qui peut aussi être une concentration ensemble, quelque chose comme ça, ou un espace ensemble. Alors cette solidarité dans le rire est extrêmement beau, je trouve.
Alors nous retournons dans La Lettre avec Arne qui joue Constantin de la Mouette, qui parle de sa mère comédienne.
Elle croit servir l'humanité et l'art sacré, mais à mes yeux, dans ce théâtre bourgeois, il n'y a que routine et préjugés. Vraiment, quand le rideau se lève et quand la lumière artificielle dans une pièce à trois murs, ces fameux talents, ces archiprêtres de l'art sacré nous montrent comment les gens mangent, boivent, aiment, portent le complet veston. Et quand on me sert encore et encore cette même sauce triste, alors je fuis. Je fuis comme Maupassant fuit à la Tour Eiffel, dont la vulgarité lui broyait le crâne. La réalité. Les obsessions, les rêves, voire l'oubli, l'amour, la peur. La vraie vie des acteurs sur scène et pas des inventions sur papier. Non, des formes nouvelles. Voilà ce qu'il nous faut. Et s'il n'y en a pas, alors mieux vaut rien du tout.
Il y a quelques jours, ici même dans cette cour, lors de la présentation de La Lettre dans le cadre des matinales du Festival d'Avignon, Milo Rao, vous avez cité le titre d'un livre que vous venez de publier, c'est ce que vous avez dit. En tout cas, alors j'ai regardé, il n'est pas encore en français, mais vous avez dit le titre, si on le traduit, c'est « La résistance n'a pas de forme, la résistance, c'est la forme ». Est-ce que vous pouvez un peu développer cette idée et nous dire en quoi c'est un rapport avec là, ce dont on parle ?
C'est intéressant de parler de ça après cette citation de Tchekhov, en fait, parce que le titre m'est venu quand j'avais un panel, une discussion publique avec des artistes partout, mais aussi avec une autrice, une artiste iranienne. Et moi, comme toujours, j'ai dit, il ne faut pas jouer les classiques Shakespeare, Tchekhov, il faut s'en débarrasser, inventer ses propres formes, etc., tout ce que Arne dit. Et elle m'a dit, mais tu sais, Milo, si on joue Tchekhov, la Mouette, les Trois Sœurs, etc., à Téhéran, c'est une révolution, c'est la résistance, parce que c'est une pièce intime. Alors on va occuper l'espace intime publiquement sur la scène, et c'est quelque chose de révolutionnaire. Pendant que, je ne sais pas si tu joues Tchekhov en 1945, dans la Deuxième Guerre mondiale, ou maintenant, et tu ne parles pas de la guerre, de Gaza, etc., c'est Alors, qu'est-ce que tu fais, en fait? Qu'est-ce que c'est, ce silence? Ce Tchekhov devient un silence sur d'autres choses. Et je crois que c'est là qu'il faut accepter qu'il n'y a pas... Parce que beaucoup de fois, on pense que le théâtre politique, c'est donner des manifestes. Et quelquefois, c'est important de donner des manifestes, mais quelquefois, c'est la poésie. Quelquefois, c'est même le silence. Alors, la forme change de contexte en contexte. Et c'est très important de comprendre ça.
C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que ça fait écho à ce que nous a dit ici mardi Thiago Rodriguez, qui a expliqué que le Festival d'Avignon est un miroir du monde, ouais. Est un festival engagé, mais que pour autant, il n'a pas, en tant que festival, et lui, en tant que directeur de festival, à demander aux artistes de se saisir de tel ou tel sujet d'actualité, par exemple, pour cocher un peu les cases de tout ce qui se passe dans le monde, et qu'on peut parler du monde et du moment sans être non plus dans un zoom très très proche avec des événements.
Mais peut-être ça nous apporte au deuxième sujet de notre discussion, parce que...
On va y venir.
Quand j'ai répété la lettre à Paris... et je suis devenu conscient, en fait, parce que le procès contre Dominique Pellicot et les 50 autres violeurs s'est terminé ici à Avignon.
Voilà.
Je me suis dit, mais c'est étrange d'arriver à Avignon et ne pas parler de ça du tout. Et c'est comme ça aussi que j'ai senti que Avignon demandait ce projet, surtout parce que je faisais la lettre. J'aurais pu pas venir du tout, mais venir et laisser ça à côté, un silence sur ça, ça me semblait étrange, comme une opinion de ne pas en parler, et dans le cadre du festival. Alors, quelquefois, il y a aussi le besoin d'adresser des choses qui sont, justement politiques, je crois.
Alors, effectivement, depuis longtemps, la forme du procès, vous intéresse au théâtre, dans des films. Vous avez travaillé cela. Ici, donc, à Avignon, après l'avoir fait à Vienne, vous allez proposer vendredi prochain, dans une semaine, une longue soirée de lecture autour du procès des viols de Mazan.
J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle.
C'est Gisèle Pellicot, bien sûr, que nous venons d'entendre. Cette soirée, vendredi prochain, donc ici à Avignon, au Cloître des Carmes, mais aussi en direct, en vidéo, sur le site du festival, a été titrée « Le procès Pellicot, hommage à Gisèle Pellicot ». Vous avez travaillé pour cela avec la dramaturge Servan Decle, Milo Rao. Qu'est-ce que c'est, cette soirée?
Quand j'avais compris à Paris qu'il fallait faire ça, j'ai téléphoné à Servan, avec laquelle j'ai déjà fait plusieurs projets, pour tester si on peut avoir accès aux documents, etc., du procès, parce que ce n'était pas enregistré. C'était juste des personnes ont fait des notes, des journalistes, des avocats, etc. Et ce qui nous a surpris, c'est que tout le monde, j'étais pas sûr de ça, beaucoup de fois c'est difficile, hein, les journalistes ne veulent pas donner leurs notes parce que c'est leur capital quand même, et la même chose avec les juristes et avec les scientifiques, et tout le monde a dit tout de suite, on va prolonger le geste de Gisèle Pellicot, en fait ces derniers mots qu'elle a dit après le procès, qui sont très très beaux, vraiment très beaux ce qu'elle a dit, qu'il faut créer un théâtre, qu'il faut créer un public, en fait, pour ce qui a été dit dans le procès, parce que j'avais l'impression, et c'est pour ça qu'il y a cette longueur, à Vienne, c'était 7 heures, ici c'est 4 heures, c'est 50 acteurs, actrices, activistes, des personnes qui étaient dans les procès, etc., le chœur va chanter, qui a chanté devant les tribunaux et tout, parce que je crois, si on ne donne pas une forme longue, ça reste ce qu'on connaît des médias, ça reste un peu un fait divers. Et si on va dans la longueur, la complexité devient plus grande et on commence à comprendre, comme elle a dit, qu'on parle d'une structure dans laquelle nous sommes tous inclus. Et ça devient extrêmement, extrêmement symbolique de notre façon de vivre, de tisser des relations, de voir l'autre et d'être homme et femme dans ce monde.
La longueur, et puis pas que la longueur, parce que ce procès, effectivement, il a été très couvert. Il y a déjà plusieurs livres qui sont sortis dessus avec des angles différents. Il y en a d'autres encore qui vont arriver dans les prochains mois. La différence, là, il y a cette question, effectivement, de longueur, mais il y a aussi le fait que c'est dit, que c'est entendu, que c'est les paroles là, elles vont résonner, c'est-à-dire avec des gens qui sont rassemblés pour écouter ça. Est-ce que c'est ça aussi que apporte en plus ou en plus, je sais pas, mais en tout cas apporte un dispositif qui ressemble au dispositif théâtral pour mettre en voix ces mots, quoi.
Oui, c'est ça. Mettre en voix, par exemple, les interrogations des violeurs, qui sont très troublants, extrêmement intéressants, de mettre en lumière ce qui s'est passé dans les quatre années de 2020 à 2024, parce qu'on ne parle pas seulement du procès. Évidemment, on a travaillé beaucoup aussi avec les auteurs et autrices des livres que vous venez de citer, avec des scientifiques, des psychologues, etc., qui vont quelquefois lire leurs propres textes, qu'on a fait un tout petit peu, on fait même une critique du procès, du punitivisme. Alors on se demande, mais comment est-ce qu'on peut changer cette parce que vous savez, un tribunal, en fait, c'est déprimant pour tout le monde qui est inclus, parce que personne va essayer de dire la vérité, parce qu'en fait on veut pas être jugé durement, en fait. Ces hommes disaient pas la vérité parce qu'ils voulaient avoir le moins de peine possible. Alors c'est, je crois, on a besoin d'une autre forme. Et la dernière chose, c'est que Giuseppe Lecco, quand elle a dit « il faut ouvrir les portes », et il y a une autre discussion qui est très intéressante rhétoriquement sur les vidéos, parce qu'on a dit « il ne faut pas montrer les vidéos parce que c'est trop dur », etc. C'est vrai, mais elle a dit « il faut les montrer ». Et ça, c'est presque pour moi un manifeste sur l'espace public. Il faut montrer les choses, il faut discuter les choses, il faut ouvrir le silence, il faut, parce que sinon ça va. Pour moi, c'était, il y avait des, moi je pensais que je connaissais tout, mais c'est beaucoup de fois comme ça avec les tribunaux. Et après, tu découvres que tu connais absolument rien, et c'est ça qu'on veut laisser voir. Évidemment, il y aura plein de choses qui vont être dans la performance des actrices et acteurs. Alors par exemple, les discours de Gisèle Pelleco, les discours des qu'on connaît. L'interrogation de Dominique Pellico, etc. Alors des choses qu'on connaît, les mots des féministes, des activistes féministes qu'on connaît, mais qu'on veut laisser entendre aussi, parce que je crois qu'il y aura aussi plein de personnes présentes qui ne savent pas trop de choses.
Donc, donner à entendre tout ça et en débattre, c'est intéressant aussi ce que vous dites, qu'il y aura une partie sur la critique du procès et de discuter tout ça. On citait tout à l'heure le manifeste de Gand. Depuis 2023, on l'a dit, vous dirigez donc le festival de Vienne, qui est un très grand festival. Il y a un an, vous avez publié une déclaration, une constitution visant à donner une orientation à ce festival. Alors là aussi, il y a 10 points. On ne va pas tous les citer, mais pourquoi, par exemple, est-ce que c'est important d'affirmer, pas de parole en l'air, mais un changement structurel complet, fixer des quotas contraignants pour les invitations, les coproductions, les nouvelles créations. Le festival appartient au public. Vous mettez dans ce paragraphe le dispositif pièce commune. Non à la diplomatie de couloir, oui à la confrontation réelle. Pourquoi c'est important d'affirmer tout ça, de poser ces questions-là et d'y répondre ?
Je crois que c'est Jean-Luc Godard qui a dit faire du théâtre politique ou faire du film politique, c'est pas faire un film politique avec un message politique, mais c'est de faire du film politiquement. Alors changer la façon comment on produit, distribue et comment on structure la production d'un film, alors dans ce cas d'un festival. Et ce que j'ai fait à Gand, j'ai fait à Vienne aussi, je voulais faire explicitement ensemble avec un conseil, ça s'appelle Conseil de la République, parce qu'on a renommé le festival à la République libre de Vienne, qui a un conseil international et national, une sorte de parlement avec lequel on a décidé après des 2000 heures de discussion sur ces 10 points, et maintenant il y a des groupes de recherche qui changent vraiment le financement, les quotas et tout. Alors on décide surtout, on fait les décisions explicites pour qu'on soit mesuré à travers ces décisions. Parce que normalement, moi, quand j'entre dans un théâtre, dans un festival, je ne connais pas les règles, je ne sais pas à quoi je dois réagir ici. Et j'adore de politiser un espace pour savoir c'est ce que cette institution me donne comme spectateur, comme public, comme producteur, mais c'est aussi à quoi je participe. Si je viens ici, alors je peux décider, si ça existe par exemple à Avignon, je peux décider, oui, je participe. Par exemple, la pièce commune, c'est très clair. Je réfléchis. Plein d'autres ont dit non, on ne veut pas faire ça.
Ah oui?
Moi, j'ai réfléchi et j'ai dit oui, je vais le faire. Je le sais comme producteur, parce qu'ils ont dit ah, c'est trop petit, c'est trop chaotique, il n'y a pas assez de technique. Je peux comprendre, en fait, parce que c'est vraiment un choix esthétique aussi.
Et ça dépend peut-être des univers de chacun. Bon,
oui, chacun, chacun a son univers. Si j'aurais dû faire, par exemple, le procès Pellico dans le cadre d'une pièce commune, j'aurais dit non, ça n'aurait pas marché. Parce que j'ai réfléchi un moment, évidemment, sur ça, mais ça n'avait pas marché. Mais Je crois être politique, c'est être explicite. C'est justement ça, et c'est pour ça que je fais toujours des papiers, des manifestes qui sont visibles à tout le monde. À Grand, c'était à l'entrée en or, on le voyait. On entre dans le théâtre, par exemple, il y avait point numéro 5. Chaque spectateur a le droit d'assister à des répétitions. Il y a toujours eu des étudiants qui sont venus chez moi et ont dit, est-ce que je peux assister à des répétitions? J'ai dit, tu as le droit d'assister. C'est pas moi qui va décider sur ça.
Ah, on sait que ici aussi, Thiago Rodriguez se pose ces questions aussi de comment ouvrir le festival. Là, il y a eu cette année les avant-premières de certains spectacles réservés aux personnes qui vivent ici. Il y a le guide de la première fois qui rappelle qu'on a le droit de pas venir tous les ans à Avignon et que c'est pas grave et qui enlève les complexes possibles en disant vous avez le droit d'aimer, de pas aimer, de partir, de machin, de pleurer, de pas avoir d'avis. Bon. Quel est le risque, en fait, quand on est comme ça, un grand festival ou plus largement des grandes institutions artistiques, culturelles? Quel risque on court si on ne se pose pas ces questions aujourd'hui?
Mais je crois un des risques, c'est vraiment que le festival ne souffre pas, qu'il reste fermé. Et il faut vraiment faire des décisions parce qu'il y a des choix. Par exemple, les quotas. Le Festival de Vienne et Europe centrale, Europe de l'Est. Alors, on fait une décision qu'on va inviter l'Europe de l'Est beaucoup plus que, par exemple, ici, on invite, disons, le monde arabe, la francophonie, etc., ce qui donne du sens, peut-être, au sud de l'Europe. Alors, parce que maintenant, les festivals de théâtre ont tendance de montrer, et je me critique moi-même un peu, les mêmes 50 noms, encore et encore. En même temps, ce que je fais avec Thiago et le Festival d'Avignon, on fait des lignes ensemble, pièces communes, histoire de théâtre, plein de choses. Maintenant, on a discuté parce que notre festival finit deux semaines avant le début du Festival d'Avignon, qu'après une semaine que mon festival finit, on fait au milieu de deux festivals, on fait une petite soirée ensemble, Festival d'Avignon et Festival de Vienne. Étrangement, juste pour le dire, ça sera dans l'ancienne République de Salo, en Italie du Nord, malheureusement.
Merci beaucoup, Milo Rao. La soirée hommage à Gisèle Pellico, donc vendredi prochain, 18 juillet, au Cloître des Carmes, ici, et en direct sur le site du Festival d'Avignon à 22h, c'est gratuit. La lettre, chaque soir, un lieu ici jusqu'à la fin du festival, et puis en tournée, notamment au théâtre Sylvia Montfort à Paris, fin janvier. Merci beaucoup. Avant le journal, un mot du programme des fictions de France Culture à 20h dans la cour du musée Calvé et en direct à la radio. Ce soir, la chambre numéro 12 et autres nouvelles de Naguib Mahfouz avec notamment Reda Kateb.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Retour au Festival d'Avignon dans la cour du cloître Saint-Louis et avec nous jusqu'à 13h, Émilie Rousset, bonjour.
Bonjour.
Vous créez ici Affaires familiales qui s'écrit au pluriel et s'entend dans le domaine du droit. Nouvelle création qui part de témoignages que vous avez recueillis auprès d'avocates, d'avocats, justiciables, militants, militantes en France, mais aussi en Italie, au Portugal, en Espagne. Ce sont vos questions et leurs paroles que nous entendons dans ce spectacle par l'intermédiaire de comédiennes et comédiens qui évoluent entre deux gradins de public qui se font face. Vous travaillez depuis longtemps, Émilie Rousset, à partir d'archives. On peut citer notamment votre pièce Reconstitution, le procès Bobigny, en 2019 puis 2024. Parfois, comme ici, vous contribuez à les former, à les créer, les archives, par la collecte. Qu'est-ce qui vous attire dans ce travail-là, dans cette matière-là, au départ ?
Oui, ça fait une dizaine d'années que je déploie une écriture théâtrale qui se construit à partir d'archives et de matières documentaires. Dans les matériaux documentaires que je récolte moi-même, comme c'est le cas pour Affaires familiales, ce qui m'intéresse aussi vraiment théâtralement, c'est que c'est de la parole vive, de la parole échangée que je récolte et que ça donne une matière théâtrale très spécifique, issue de l'oralité, qui n'existerait pas par écrit. Et ce qu'on réactive, ce qu'on rejoue et ce qu'on partage avec le public, c'est aussi la rencontre et la façon dont la rencontre se tisse par le langage, par des choses qu'on dit, des choses qu'on dit pas, des choses qui s'entendent alors qu'on ne les a pas dites. Et c'est cette matière-là qu'on sculpte théâtralement.
Alors, il y a un dispositif, voilà, il y a une matière, un rapport à cette matière, ce qu'elle peut donner quand elle devient un théâtre. Et puis, il y a le choix du sujet, du domaine où vous allez. Donc ici, le droit de la famille, les affaires familiales. Qu'est-ce qui vous a amené à cet endroit ?
Ben, vous citiez la pièce que j'ai créée en 2019 avec Maya Bocquet, Reconstitution, le procès de Bobigny. C'est vrai qu'Affaires familiales est une pièce un peu jumelle, ou en tout cas en écho, dans la continuité. En 1972, le procès mené par Gisèle Halimi fait changer la loi en France pour que les femmes puissent choisir, puissent librement disposer de leur corps et choisir d'avorter si elles le souhaitent. Et en travaillant sur cette pièce qui constituait à déplier l'archive de 1972 avec des témoignages contemporains, c'est la question du militantisme et du droit, la porosité entre la société, ce qui nous anime, et l'institution judiciaire et comment tout cela communique. C'était aussi la question de sujets qu'on peut penser intimes, qu'on peut penser de l'ordre de liberté individuelle, et qui en fait sont des sujets collectifs et qui sont même le socle de nos démocraties.
Il fait pas chaud, hein. Comme c'était fermé, j'avoue, j'ai pas mis de chauffage. Vous voulez que je mette du chauffage ?
Non, ça va. Si on peut s'entretenir...
Oui, j'ai bloqué ce matin.
Bah, c'est très gentil d'avoir bloqué pour moi.
Non, je me suis organisée. Pas de difficultés.
Alors, vous m'aviez dit, là, sur le droit de la famille, il faut être passionné, c'est-à-dire ?
Bah, vous touchez au plus profond de l'être humain, en fait. Au ressenti, à l'amour, la haine, l'urgence, la blessure, la peur, la violence. Et donc vous touchez au cœur.
La famille, c'est le lieu de l'intime par excellence, et en même temps, ce qui se joue dans toutes les affaires dont il est question dans Affaires familiales concerne la société. Est-ce que c'est pour ça aussi que ces paroles doivent être ou peuvent être, ou qu'il y a un sens en tout cas à les porter au théâtre, c'est-à-dire à les faire entendre justement?
Oui, c'est vrai que c'est une histoire. Ce qui tisse aussi la dramaturgie de cette pièce, c'est l'histoire des récits, c'est-à-dire comment il y a des histoires qu'on entend, des histoires qu'on n'entend pas du tout. Par exemple, la pièce parle aussi de l'inceste, le déni face à ces histoires-là de la part de la société et de la part de l'institution judiciaire est énorme. La pièce parle aussi des parentalités LGBT, et même si en France, aujourd'hui, ce sont des familles qui sont acceptées par la loi et par la société tout de même, mais quand même la compréhension de ce type de famille, du fait que le lien génétique n'est pas forcément premier dans le lien à l'enfant, comment est-ce que ces lignes bougent et comment ces lignes peuvent bouger en écoutant les récits? Et quelle est notre perception des récits? Comment est-ce qu'on les prend en charge collectivement et comment ça change la vie des gens?
Oui, parce que, en effet, cette question de comment la société réagit face à ces affaires, face à ces questions, est très présente dans la pièce même. C'est-à-dire, à un moment donné, vous parliez de l'inceste, il y a effectivement un long passage, enfin un des 9 tableaux, une des 9 rencontres qui porte vraiment sur ce sujet-là. Et à un moment donné, il est dit, ça n'est pas entendable, ça n'est pas entendable. Et là, justement, vous nous faites entendre ça, et le dispositif du théâtre, le fait qu'il y ait le public autour, crée une écoute qui, précisément, semble faire défaut, en fait, dans beaucoup de ces affaires-là.
En tout cas, oui, le dispositif, c'est un dispositif scénographique proposé, créé par Nadia Leroux, et ça, c'est un bifrontal. Et c'est vrai que quand Nadia a proposé ça, tout de suite, ça m'a paru absolument essentiel, parce que ce que je voulais vraiment, je ne voulais pas faire une pièce qui dénonce de loin des manquements de l'institution judiciaire. Je voulais faire une pièce qui nous convoque, nous, en tant que société, part active de cette institution. Donc, le bifrontal raconte ça. On se regarde écouter.
Exactement. Alors, là, on a entendu, donc, dans l'extrait, une question posée, des réponses. Donc, c'est issu des entretiens que vous avez menés, mais ça n'est pas votre voix qu'on a entendu poser la question, ça n'est pas non plus la voix de l'avocate qui vous a répondu que l'on a entendu là, ce sont des comédiennes, comédiens. Comment se fait ce passage-là, et finalement, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça apporte, le fait que ce soit des comédiennes, comédiens qui prennent en charge cette parole ?
Donc c'est une écriture au long cours, c'est une écriture, j'ai commencé à faire des interviews et à collecter des matériaux il y a plus de 2 ans. Donc avec l'équipe artistique, on travaille en aller-retour entre le plateau et l'écriture, et on regarde et on éprouve par le plateau les rushs entiers avant qu'on le retravaille à l'écriture avec ma co-autrice. Donc ça permet aussi de percevoir quelque chose au-delà du sens qui peut se partager au théâtre. C'est aussi la manière dont on fait la sélection des matériaux, des interviews qui vont constituer le corpus de la pièce. Donc la pièce est constituée de 9 rencontres. Donc qu'est-ce qui agit pour cette sélection? Il faut vraiment qu'il y ait une rencontre, c'est pas tout le temps. Donc une rencontre entre moi qui suis là et qui suis rejouée au plateau et la personne, une rencontre intellectuelle, quelque chose qui vienne me bousculer, qui vienne faire changer mes idées. C'est aussi un corpus qui est un corpus situé, c'est-à-dire qu'il y a mon personnage et c'est subjectif aussi ce choix d'aller à la rencontre de telle personne ou de telle personne. Et la réactivation par les comédiens et les comédiennes permet de partager ça avec le public, de leur faire revivre les émotions, les sensations, les bouleversements humains et intellectuels que moi j'ai éprouvés en rencontrant ces gens.
Mais donc ça veut dire que vous leur demandez de faire revivre. Donc leur base de travail, ce sont les, entre guillemets, vrais entretiens.
Leur base de travail, ce sont les vrais entretiens et la vraie parole orale, mais qui est retravaillée, sculptée, remontée. Et ce qui est très important pour moi, et on le voit dans le spectacle, c'est qu'il y ait la trace de l'archive initiale. Et les comédiens travaillent toujours entre l'archive initiale et le présent du théâtre, entre eux-mêmes, ici, là, maintenant, dans le présent du théâtre, et la réalité. Et on cherche à ouvrir cet interstice qui permet, je pense que c'est la puissance de l'art, d'écouter et de ressentir autrement que dans le réel ou que dans un journal qui relaterait les mêmes choses ou que dans une discussion qu'on peut avoir au bar.
Alors, effectivement, vous avez filmé les rencontres, il y a quelques images qui sont projetées par moment. Donc ça, c'est quoi justement? C'est un peu des citations visuelles, un rappel du cadre documentaire de départ?
C'est pour donner accès aux spectateurs et aux spectatrices à la démarche, à là où on se situe et à la réappropriation qu'on fait et au déplacement qu'on fait. Puisque la scène de théâtre est aussi un espace, en tout cas tel qu'on la travaille nous, est aussi un espace abstrait. On ne remet pas, par exemple, le bureau dans lequel s'est passé l'entretien. Et ça permet d'épurer quelque chose et de zoomer sur autre chose, de zoomer sur le langage, de zoomer sur ce qui s'y joue, sur ce qui s'y passe, sur ce qui s'y partage et sur ce qu'on peut peut-être éprouver avec le média qui est le mien, qui est le théâtre.
Vous le disiez, il y a votre subjectivité, quand bien même à la fin, ça n'est pas vous au plateau. C'est-à-dire que dans les entretiens, on vous entend, enfin voilà, la personne qui reprend votre voix, dire à un moment donné, j'ai la chair de poule ou ça me donne envie de pleurer. Donc vous réagissez à ce qui se produit. On parlait tout à l'heure avec Milo Rao de ce qu'il va faire autour du procès des viols de Mazan, avec cette question aussi de la parole qui est publique et ce qui vient là dans son cas à lui des notes, donc c'est-à-dire des paroles qu'on n'a pas entendues. Là, vous, c'est intéressant parce que quand même le cadre, c'est-à-dire le moment où elles se produisent, ces rencontres, c'est vous, même si les personnes sont filmées, elles s'adressent à vous et ensuite ça va devenir public. Et justement, ça, ce passage-là, qu'est-ce que ça joue en fait?
C'est très important que le public ait accès au fait que ce soit une œuvre subjective, une œuvre située. Je suis une femme de 45 ans, j'ai grandi avant MeToo, je suis une femme lesbienne. Donc les sujets que je rencontre sont les sujets vers lesquels je vais et les sujets qui m'impactent. Donc c'est à travers ce prisme-là que je partage la pièce en pensant que ça intéresse d'autres personnes. Et c'est en allant à la rencontre aussi d'autres récits, mais par ma subjectivité. Et ensuite, il y a la façon dont les comédiens et les comédiennes se le réapproprient. Et ensuite, il y a la façon dont les spectateurs et les spectatrices l'écoutent. Donc c'est vraiment un théâtre qui est une sorte de passage de relais sans effacer personne dans la chaîne.
Et de comment on le reçoit, et comment on reçoit ça parce qu'il y a ce dispositif, mais aussi parce que ces paroles, ces récits sont les uns à côté des autres et que l'ordre aussi sans doute produit quelque chose. C'est le travail de montage dont vous avez parlé. Si c'était autrement, ça produirait peut-être autre chose. Les personnes que vous avez rencontrées sont nommées dans le programme. Donc durant le spectacle, on voit par moments de manière un peu fugace leur visage. On peut les reconnaître ou ne pas les reconnaître. Pour les avocats de certains, on peut les reconnaître. Mais quel est le deal, quel est l'accord que vous avez avec elle, avec eux, au moment où vous les rencontrez?
Ce qui est très important aussi, je ne l'ai pas dit, dans le choix des paroles qui vont être portées sur scène, c'est pour ça que dans Les Justiciables, il y a beaucoup de personnes qui sont des militants et des militantes, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'éthique importante pour moi sur le fait que les personnes sont déjà conscientes de ce que leur parole peut déployer et sont déjà dans une action de mise en relais de leurs histoires, de leurs réflexions, de leurs récits. C'est-à-dire qu'elles sont déjà dans ces démarches-là. Du coup, c'est vraiment une condition essentielle pour que ça puisse, qu'on puisse s'en réemparer et les mettre au théâtre. Donc, je dirais que c'est un deal d'une communication, c'est-à-dire que ça démarre par une demande, par une rencontre, et puis je les tiens au courant de tout ce qu'on fait. Et là, on avait, par exemple, il y a David De Chiappa, qui est le papa italien qui se bat face aux lois de Giorgia Meloni pour faire reconnaître son enfant. Eh bien, on l'a appelé, on a parlé avec le petit après la première.
Merci beaucoup, Émilie Rousset. Affaire familiale, donc, est à voir ici jusqu'au 17 juillet à la Chartreuse, à Villeneuve-les-Avignon, puis en tournée, notamment du 19 septembre au 3 octobre au Théâtre de la Bastille à Paris dans le cadre du Festival d'automne, puis au Lieu Unique à Nantes, en décembre au Centre Dramatique National d'Orléans que vous dirigez depuis un an, Émilie Rousset, et puis beaucoup d'autres dates encore. Merci beaucoup. Merci au public avec nous aujourd'hui, ici, Cloître Saint-Louis. Un grand merci aux équipes du Festival d'Avignon pour leur si bel accueil toute la semaine. Et un très grand merci à l'équipe des Midis, bien sûr, à Issa Twendoy qui a programmé cette semaine d'émission à Avignon, Laurence Malonda à la réalisation, un salut à Thomas Beau qui était là en début de semaine, Laura Ditech-Pérez, Nina Gandara et Lisa Dejotte pour l'aide à la préparation et les pages de l'émission sur le site de France Culture. Un très grand merci à la formidable équipe technique ici dans le cloître Saint-Louis, Virginie Lordave, Laurent Bujon, Mathieu Leroy, Nicolas Estorge et Francesca Fossati. À Paris, aujourd'hui, c'était Alex Dang.